Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un endroit unique au monde, situé dans le village d'Auterive, dans le département français de la Drôme. Il a été construit sans aucune règle, il a inspiré les artistes durant plus d'un siècle et suscité l'admiration des surréalistes. Il est classé monument historique au titre de l'art naïf. On l'appelle le palais idéal. Et c'est un facteur nommé Ferdinand Cheval qui a mis 33 ans à le bâtir pierre après pierre, armé de sa brouette, de son courage, d'une résistance et d'une volonté de faire. Un travail en solitaire pour un homme étrange, créateur d'une œuvre inclassable, incarné aujourd'hui à l'écran par un acteur exceptionnel, Jacques Gamblin. Derrière la caméra, le réalisateur Nils Tavernier, qui est notre invité. Son film, L'incroyable histoire du facteur Cheval, sort mercredi prochain sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles.
Vous êtes nouveau ? Je vous ai jamais vu.
Facteur Cheval.
Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben je rêve. Je suis bien quand je marche.
On dit que je suis marié à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme.
Qu'est-ce qui te pagasse ?
Philomène va avoir un enfant.
Cheval ! C'est une fille. Oh. Pourquoi rapporter ce rocher ? Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Les branches des arbres, les oiseaux me disent comment faire.
Et tu veux faire ça quand ?
Le soir, la nuit, après ma tournée.
Mais tu es fou ! Et qu'est-ce qu'on va manger ? Hein ? Des cailloux ?
Tout va bien au palais du fou ?
Il est pas fou, mon père. À cause de toi, tout le monde se moque de moi au village. Tout le monde !
Cette construction est admirable. J'ai jamais rien vu de tel.
Vous êtes dessus depuis combien de temps ?
13 ans.
Joseph !
Il faut qu'il cesse cette folie.
J'ai cru que j'allais la perdre. Elle a besoin de ta force.
Je dois finir.
Tu vas me faire mourir.
Alice !
Tu vas guérir, Alice.
Me laisse pas tout seul.
Bonjour, Nils Tavernier.
Bonjour.
Alors, on vous connaît surtout, pas uniquement, mais surtout comme réalisateur de documentaires. Vous auriez pu, puisqu'il s'agissait d'une histoire vraie, faire un documentaire de cette histoire. C'est pas du tout l'option que vous avez prise. Pourquoi ?
Ah ben là, d'abord sur Facteur Cheval, il y a pas d'image. Il y a 4-5 photos.
Qui sont dans le livre que vous publiez d'ailleurs, dans le même temps chez Flammarion.
Ouais. Il y a 4-5 images. Donc, ça aurait été un documentaire où j'aurais filmé des personnes supposées sachant savoir, qui m'auraient raconté, voilà, si on fait un film sur la guerre, la Shoah ou 14-18 ou d'autres phénomènes, on peut choper des images d'archives. Sur Facteur Cheval, il n'y en avait pas. Et quand Alexandra Fechner est venue voir, la productrice du film, il y avait un début de scénario. Donc, elle voulait, elle, déjà, en faire un film de fiction pour le cinéma.
Il fallait donc l'incarner, ce personnage, ce facteur Cheval. Et c'est Jacques Gamblin que vous avez choisi, que vous connaissez bien, puisque vous avez tourné un film en 2013, sorti en 2013, qui s'appelait De toutes nos forces. Et c'est pour lui que vous avez écrit ce rôle. C'est en pensant à lui.
Jacques, il a, oui, c'est vrai. D'abord, j'ai écrit le film. Donc, s'il n'avait pas voulu faire le film, j'aurais été très, très embêté.
Vous l'auriez fait quand même.
Il aurait fallu que je trouve un autre acteur. Je l'aurais fait quand même, bien sûr. Ça aurait été un autre film. Jacques, il a beaucoup d'enfance en lui. Il a de la joie, il a une sincérité, et c'est un acteur qui va, il va se battre pour être le meilleur dans le meilleur film. Voilà, c'est pas un acteur qui va faire un film pour se faire sa bande démo. Il a cette générosité-là. Il a un autre truc, c'est qu'il est aimable tout en étant un peu mystérieux. Voilà.
Il colle bien au personnage, pour le coup.
C'était écrit comme ça. Parce que c'est quand même l'histoire d'un homme qui, pendant 30 ans, moi quand je suis allé voir le palais, j'étais quand même stupéfait. Moi je connaissais pas du tout l'histoire, je suis pas ultra cultivé. Je suis allé voir le palais, on me propose un truc sur l'histoire que je connais pas. Et je vais voir le palais. Et la première chose qui saute aux yeux quand vous voyez le palais, c'est que ça ressemble à rien d'autre. Alors moi, la première image qui m'est venue, c'est l'histoire d'un homme qui a construit un terrain de jeu pour enfants. Parce que ça ressemble à une cabane, ce palais. Et là, tout d'un coup, qui était cet homme qui, pendant 30 ans, avait construit avec des cailloux une cabane pour enfants. Et ça, c'était sublimement romantique.
Mais c'est vrai que le personnage est extrêmement mystérieux, parce que c'est un personnage qui parle peu, il est même taiseux, hein, on peut le dire. Et donc, pour faire passer les émotions qui sont très importantes, très nombreuses, très fortes dans le film, qui vont d'ailleurs crescendo au fil de l'histoire, Gamblin utilise beaucoup son corps et il utilise singulièrement ses yeux. Comment est-ce que vous avez travaillé ça avec lui ?
Alors, moi, j'avais pas envie d'un film bavard. On savait que Facteur Cheval était pas quelqu'un de très bavard. Facteur Cheval, c'est aussi quelqu'un qui est exclu et qui va s'inclure. C'est un homme qui est câblé différemment. Il a forcément une structure monomaniaque, il est forcément obsessionnel, donc il fallait lui trouver un truc qui était décalé. Alors on peut parler d'handicap peut-être, de trucs de troubles comportementaux, je sais pas, qu'on peut mettre plein de mots savants dessus.
Un autiste, quelque chose comme mais ça, oui, c'est difficile de le ranger dans une case.
On a souvent envie de ranger les gens dans les cases, je comprends bien, ça aide les familles à trouver des aides. Voilà, après, moi, de ranger les gens dans les cases, je suis pas sûr d'avoir une envie folle. Mais je suis pas amoureux des 65 murs qui sont en train de se construire sur la planète pour bloquer les gens en transit. Voilà, j'ai pas envie de voilà, la case est pas un truc qui m'enchante. Mais c'est vrai que Facteur, il avait peut-être une folie ou un truc de dingue et très romantique. Et ce qui était chouette dans le film, c'est que c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout de son rêve, mais et qui en tire bénéfice de son vivant. C'est pas quelqu'un qui termine, passez-moi l'expression vulgaire, dans une mer de noir, enfoncé, de je sais pas quoi.
Pourtant, la vie n'a pas été très gentille avec lui. Il en a subi des épreuves.
Il vit jusqu'à 88 ans. On sait bien qu'à l'époque, l'espérance de vie, c'était plutôt 50, 55, voilà. Donc, il a une force surhumaine. C'est un cheval de guerre. C'est vraiment un tank. Alors, évidemment, comme il vit jusqu'à 88 ans, il y a des gens de son entourage qui n'ont pas cette force-là. Facteur Cheval, c'est un petit Billy Elliot. C'est quelqu'un qui va vers sa propre liberté, quel que soit le regard que la société lui impose.
Alors justement, à propos de regard, je vous repose la question. Comment est-ce que vous avez travaillé justement le regard avec Gamblin, ce passage des émotions à travers les yeux, à travers le corps et très peu à travers les mots?
Il a Jacques, il fait partie des acteurs qui sont des acteurs d'image. Il y a des acteurs qui vont mettre le mot avant le déplacement du corps. Il y a des acteurs qui vont, parce que le corps, parce que l'énergie boue, alors le mot sort. Voilà. Et dans le scénario, c'était comme ça. Moi, je proviens pas de la radio. J'adore ça. Je proviens pas de l'écrit. Je peux arriver à lire à peu près correctement. Je proviens de l'image. Et ce que j'aime au cinéma, c'est de ressentir les personnages sans qu'il y ait forcément de texte. Voilà. Et ça, Jacques, il est ultra fort par rapport à ça. Alors, sur ses yeux, sur sa manière d'être décalé, il avait besoin, il venait me voir, il le raconte, il venait me voir à chaque prise en me disant, est-ce que j'en fais pas un peu trop? Et est-ce que je tiens l'énergie décalée de mon personnage? Mais Jacques, c'est un danseur. C'est du papier à musique. Si vous prenez un truc qui mesure le temps, une montre ou je sais pas quoi,
un chronomètre,
merci, vous faites une prise avec lui, et ben la prise va faire 1:30. Vous faites une deuxième prise, elle fera 1:31, 1:05 ou 1:32. C'est du papier à musique. Donc moi je suis fan, hein, de toute façon je l'ai prouvé.
Et voilà. À ses côtés, aux côtés de Jacques Gamblin, il y a Laetitia Casta qui joue Philomène, la femme qu'il aime.
Je rêve.
Pardon ?
L'autre jour, vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche. Ben, je rêve.
Et vous ne vous ennuyez pas ?
Non. Je suis bien quand je marche. Tout à l'heure, j'imaginais que je construisais une maison dans la forêt avec des branches, des feuilles et des fleurs.
Ça doit être une jolie maison.
Vous connaissez les temples mayas ?
Non.
Il y en a dans le magasin pittoresque.
Vous êtes blessé ?
Ouais. Non, c'est rien.
Non, c'est pas rien, c'est purement.
et Laetitia Casta retire un mouchoir de son corsage pour essuyer la plaie, un geste tendre, attentionné. Il n'y en a pas beaucoup dans le film parce qu'elle aussi, elle est assez en retenue. Hein. Il n'y a pas de marque d'affection physique, pas énormément, en tout cas quelques-unes, mais quand même, mais pas énormément dans le film. Alors on se disait, Nils Tavernier, que vous aviez très peu d'archives, très peu de photos sur le facteur cheval, mais son histoire, on en a parlé dans la presse, dans les journaux, il a rédigé un journal hein, qui a largement servi aussi à la confection du livre qu'on évoquait tout à l'heure, mais sur sa femme, on sait encore moins de choses que lui.
Alors, tout ce qui est dans le film, toutes les dates, les heures de travail, le temps, c'est vrai. On sait qu'il a construit son palais, par exemple, 6 mois après la naissance de sa petite fille. Sur sa psychologie, il n'y a pas d'études psychologiques sur lui. Freud, il arrive à ce moment-là à peu près. Donc il n'y a pas un toubib ou quelqu'un qui a dit il était comme ça. Donc on a spéculé là-dessus. Après, quelqu'un qui est totalement, comme je disais tout à l'heure, obsessionnel, il a une structure cérébrale particulière. Sur sa femme, on a des photos. On sait pas. On sait qu'il a passé 10 ans de célibat entre la mort de sa première femme et de sa seconde. J'ai pas traité ce moment-là dans le film. Par contre,
mais on sait qu'il est veuf. Hein,
ça, on sait qu'il est veuf, absolument. Par contre, il y a un truc qui est triché dans le film. Donc ça, c'est un mensonge et je l'assume très bien. La femme de Facteur Cheval sur les photos ne ressemble pas du tout à Laetitia Casta.
Ah, alors pourquoi Laetitia Casta? Parce que François Glamblin, avec le maquillage en plus et la moustache, il y a quand même une vraie physionomie qui ressemble à celle du vrai personnage. C'est pas du tout le cas de Laetitia Casta pour Philomène.
Ouais, j'ai pas du tout pris Jacques parce qu'il ressemblait à Facteur. Il se trouve qu'il
bien.
Ressemble,
oui.
Mais ça tombait bien. Oui. Voilà, a priori, ça c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup.
Oui. Mais alors pourquoi Laetitia Casta?
Alors Laetitia, parce qu'il fallait quelqu'un qui soit extrêmement solaire. J'ai quand même, on n'est pas sur une comédie avec des bagnoles rouges, des filles qui dansent en bikini au-dessus des bagnoles. C'est pas un film de rap. Hein. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui soit extrêmement lumineux, qui soit à la fois terrien, inattendu, et j'avais besoin de quelqu'un dont j'étais sûr qu'elle pouvait interpréter quelque chose qui soit un rôle de composition. Et ça, Laetitia, moi je l'avais vu dans 2 films précédemment. Elle avait fait un rôle où elle vieillissait, qui était Arletty à la télé, où elle était vachement bien.
Oui.
Et puis dans le film de Gainsbourg où elle avait un rôle d'une star d'époque, son nom m'échappe. Mais voilà. Donc ce que j'ai fait avec Laetitia, c'est qu'on a commencé à faire des essais de maquillage. Et j'ai fait des photos d'elle et de Jacques. Et là, j'avais un couple sur une image fixe qui était ultra intéressant. Moi, ma seule peur, c'est que le couple ne fonctionnait pas.
Mais ça veut dire quoi, un couple intéressant pour le cinéaste?
Un couple qui fonctionne, un couple qui... Bah, c'est subjectif, un couple intéressant. C'est vrai que vous avez raison, ça ne veut rien dire. Mais où tout d'un coup, quand je regardais une image figée, donc une image photographique, en les ayant eux-mêmes déjà grimés pour les faire vieillir, je trouvais que c'était beau. Après, le beau, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais moi, je trouvais ça... Ouais, alors je vais reprendre le mot intéressant, mais je vois bien qu'il est un peu vulgaire. Et après, il fallait que ça joue pareil. Et Laetitia, elle a d'abord, elle avait envie du rôle. Et elle a posé quelque chose. Elle a posé le regard d'une femme qui allait accepter d'aimer un homme quand il fait des conneries. Elle l'engueule, mais elle aime un homme sans s'en sentir elle-même dévalorisée. Et ça, c'était très beau. Et quand elle a posé ça, je savais que j'avais gagné. Parce que Facteur Cheval, c'est aussi et fondamentalement une histoire d'amour. Quand
une
même.
Histoire d'amour entre un homme et une femme, une histoire d'amour aussi entre un père et sa fille. La
Capitale.
Fille qui est incarnée par Zélie Rickson, nouvel extrait.
C'est quoi cet animal?
Un éléphant.
J'en ai jamais vu des éléphants ici. Tu pourras me ramener un quand tu fais ta tournée pour me montrer?
Bah non, je peux pas t'en ramener. Tu sais, ici, on utilise des chevaux pour travailler la terre. Mais là-bas, en Asie, regarde, c'est des éléphants, parce qu'ils sont robustes. C'est des travailleurs acharnés. C'est pour ça que j'en ai mis un ici.
Mais c'est gros. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas ici, sinon ça casserait mon palais.
Mais non, il est gentil, bête.
Alors le palais du Facteur Cheval existe, hein, on le disait tout à l'heure. Nils Tavernier, vous avez tourné sur place, ça c'est une chance incroyable évidemment pour un cinéaste. C'est une chance et une contrainte en même temps parce que le palais il est fini. Et là vous montriez dans le film un palais en construction. Alors comment on fait pour éviter cet écueil?
Alors où on le scannait et on le modélisait en image 3D, ce qui aurait coûté une fortune. Ça, moi j'ai pas un film très cher. Ou alors, il fallait le détourer. Donc, on tourne sur le vrai palais, on le détourne et derrière, on met ce qu'on appelle du matte painting et on reconstruit un environnement, quoi.
Alors, il y a aussi donc quelques trucages, hein, donc quand même dans le film, ça veut dire un peu de post-production.
Il y a 90 plans truqués dans le film.
Ouais, c'est beaucoup, quand
même. J'ai refait 60% des ciels. Bon, après, il y a tout ce qui est le palais, les fonds verts, et ça et tout. Il n'y a pas de trucage numérique sur le maquillage de Jacques, mais il y en a sur Laetitia. Laetitia, ça marche pas. Vous pouvez la faire vieillir jusqu'à un certain temps, mais elle a tellement une peau. Après, c'est technique, je sais pas ce qui s'intéresse, mais pour être extrêmement rapide, on peut mettre un peu de latex. Quand on a des rides, quand on a pas de rides, ça marche pas. Sur Laetitia, on n'arrivait pas. Donc, on a filmé une femme de 65 ans ou de 70, je me rappelle plus, qui avait à peu près le même visage que Laetitia. Et on a ce qu'on a fait, on a construit un morphing, voilà, pour la faire vieillir. Mais enfin, tout ça, c'est vraiment des petits trucs de cinoche. Ouais. Ce que moi, j'aimais dans Facteur, c'est que c'était une success story. Et que c'était un film d'amour, et que c'était quelqu'un qui allait au bout de ses rêves, et que c'était une vraie histoire.
Mais alors, il faut pouvoir aussi avoir les moyens de montrer quelque chose de crédible à la caméra. Il n'est pas maçon, quand même, Jacques Gamblin, et c'est pas son petit hobby du dimanche de construire des palais, quand même. Comment il a fait? Parce que là aussi, le geste est un élément majeur de la composition du personnage.
Jacques, il est hystérique de la véracité, je sais pas si le mot est juste, mais il veut pas que quelqu'un qui connaisse le boulot dise « Ah, l'acteur, il le joue mal ». Voilà. Donc, il est hystérique sur l'idée comment tenir une truelle. Alors, il s'est fait aider par les gens qui bossaient sur le palais, mais il a énormément travaillé là-dessus. Jacques veut être irréprochable. Alors, ça prend du temps. Mais à la fois c'est ultra gagnant. Mais il voulait être irréprochable aussi dans son jeu pour garder Facteur Cheval. Ce qui est très beau chez Jacques, c'est qu'il y a une jolie part d'enfance romantique. Encore, c'est pas quelqu'un qui a été épuisé dans son âme, dans son corps par la pression sociale. Mais alors, il est libre.
Mais alors, vous aussi, Nils Tavernier, vous avez la réputation d'être un réalisateur extrêmement exigeant, extrêmement pointilleux. Vous travaillez beaucoup avec les storyboards. Il paraît que vous interdisez de parler trop fort sur les plateaux. Vous êtes quelqu'un qui veut tout contrôler. Il y a une part pour l'improvisation des acteurs et des techniciens dans vos tournages.
Alors, des techniciens, pas beaucoup. En tout cas, pas sur Facteur. C'était pas improvisé, il y avait une ligne artistique extrêmement précise, c'était une colorimétrie qui est celle de Fanta à la Tour. Donc ça, sur les techniciens, non, pas tellement. Après, ils peuvent me faire des propositions, mais enfin, c'est oui ou non, et on n'a pas le temps de réfléchir par rapport à ça. Moi, je fais pas des films avec 15 semaines de tournage. Ouais. J'ai pas le temps de me prendre la tête.
Et les acteurs?
Alors, les acteurs, ils peuvent proposer les choses. Ils peuvent. Par contre, j'ai pas envie que sur mes tournages, les gens se coupent la parole. Ça me rend triste. Si quelqu'un a besoin de s'exprimer, eh ben, tu attends, tu fermes ta gueule, t'écoutes l'autre. Voilà. Et ça implique, ça fait en sorte qu'il y a tout d'un coup 50 personnes, ils sont obligés de se respecter. Moi, j'aime bien quand les gens essayent de s'écouter parler. Voilà. Et de parler fort, je trouve que c'est pas bien. C'est un bordel sur un plateau, sinon.
Merci beaucoup, Nils Tavernier, d'être venu parler tranquillement, posément au micro de RFI et de VMDN. L'incroyable histoire du Facteur Cheval en salle mercredi prochain. Et puis, le Facteur Cheval jusqu'au bout du rêve, le livre qui sort parallèlement au film. Je suis Flammarion, merci.
Merci à vous.
Vous m'en direz des nouvelles. Main d'œuvre. Margot. BD. Aujourd'hui, je suis...
Le minéral magnifié. On est en train de resculpter et recoller une rosace sur un jambage de cheminée. Un jambage de cheminée, c'est ce qui soutient donc la tablette supérieure. Cette cheminée, c'est une cheminée 19e, donc sur un rouge de Belgique. Donc, je m'appelle Alain Daudray, je suis tailleur de pierre marbrier, artisan d'art. Alors, tailleur de pierre, c'est essayer, autant que faire se peut, de faire des restaurations sur des monuments, des demeures privées ou des bâtiments publics, et d'en respecter l'âme de ce bâtiment, respecter ce qui a été fait par nos anciens, et faire en sorte que ça perdure encore au moins 200 ou 300 ans. Donc là, on travaille donc avec un gravelet très fin, de à peu près 8 mm. C'est un... comme un petit crayon avec au bout une pastille de carbure de tungstène. Voilà, très dur. Et une massette portugaise. C'est comme un petit marteau, mais rond. Voilà, donc la taille est terminée. On va passer au ponçage et au polissage pour bien faire ressortir la couleur. Là, on a en fait une matière qui est encore brute, donc assez blanche, assez terne. Et on va la poncer et la polir pour la faire devenir satinée. Là, on est obligé de tout faire à la main. Ce qui est plus difficile, c'est d'aller dans les fonds. Donc on va dans les fonds en tordant un peu le papier. On passe un peu de laine d'acier pour encore enlever toutes les rayures qui pourraient rester. Donc maintenant, cette opération étant terminée, on va polir le fond des rosaces. Voilà, donc on a fini le polissage. Et maintenant, il nous reste qu'à mettre la cire. Elle va donner ce côté un peu ancien qu'ont les marbres 19e. Voilà, donc la cire est appliquée. Et maintenant, avec un chiffon de laine ou de la peau de mouton, on va pouvoir lustrer. Voilà le rendu. Là, elle est prête à être assemblée. Donc, on va faire le collage. Nos épaules de colle. Voilà. C'est une colle à marbre à l'intérieur de laquelle on rajoute des pigments pour se calquer le plus possible sur la couleur du marbre qu'on restaure, en l'occurrence là du rouge de Belgique. Donc là, on va essayer de trouver le pigment qui fera qu'on ne verra pas du tout la restauration. Donc là, on a des terres qui ont la couleur d'une brique pilée noircie. Tous les pigments que j'utilise sont naturels. Voilà, donc là, on a mélanger plusieurs terres. Ça y est, on a trouvé la bonne couleur. On va rajouter le durcisseur et on va appliquer la pièce. On va rejoindre les deux pièces. Ce qui est intéressant, c'est de travailler justement sur des monuments anciens et de retrouver les patines anciennes pour que la restauration soit la plus discrète possible et la plus longue possible, qu'elle dure au moins autant de temps que les pierres qu'on vient de changer.
Aujourd'hui, j'étais...
Le minéral magnifié.
Sur RFI.
Café gourmand, vous m'en direz des nouvelles.
Avec cette semaine, Muriel Mahalouf, Margot Bédé, Marjorie Bertin, Alain Pilot. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Bonjour Jean-François.
Avec vous Alain, joli témoignage dans un instant d'un concert de 3h50 et quelques minutes, témoignage d'Ibrahim Mahalouf sur un double disque et DVD.
Et même en haute définition sur une clé USB 14, 12, 16 Live in Paris, c'est l'intitulé de ce joli coffret que publie le plus populaire des trompettistes français d'origine libanaise qui nous a accueillis dans son antre à côté de Paris.
Et comme c'est les soldes en ce moment en France, VMDN vous offre, si j'ose dire, deux Mahalouf pour le prix d'un, Ibrahim. Et donc vous Muriel, c'est de la qualité hein, c'est dire.
Oh ben c'est bien vu.
Il paraît que ça fait pas mal de bruit en ce moment dans Landerneau, comme on dit familièrement. Vous allez nous parler d'un couple d'artistes nord-américains.
Et oui, un couple d'artistes mythiques qui ont vécu 25 ans ensemble, des grands artistes de l'abstraction du XXe siècle, qui sont John Mitchell et Riopel, Jean-Claude Riopel.
Et c'est justement en Bretagne, à Landerneau, hein, au fond Hélène et Édouard Leclerc pour la culture. On ira aussi au théâtre avec vous Margot, alors qu'Alexis Michalik a adapté au cinéma Edmond, hein, sa pièce à grand succès. D'autres se sont mis dans la peau de Cyrano.
Oui, et c'est d'ailleurs le nom du seul en scène de Nicolas Devor, il est en ce moment au Lucernaire.
Théâtre également pour commencer avec vous cette fois Marjorie, vous êtes allée voir une pièce où il est beaucoup question de politique.
Très, la metteur en scène Aurélie Van Dendal nous plonge dans les coulisses vertigineuses d'une campagne électorale dans la Grande-Bretagne des années 90. L'absence de guerre du Britannique David Hare.
Le personnage principal de la pièce, George Jones, est un leader de gauche passionné de théâtre qui semble avoir toutes ses chances pour remporter les élections. Sauf que la conquête du pouvoir est rude et se mène comme une bataille pour laquelle George Jones est très entouré.
Un peu trop entouré.
Peut-être, oui.
George était en col roulé, ça porte malheur.
George passe à la télé.
Et il est obligé, il faut qu'il ait l'air rassurant. Grosse dégringolade, George sort au minimum à la cravate brun forêt.
Donc c'est un sondage.
Oui.
Quelle connerie.
Jolie cravate, George.
Pourquoi les gens tiennent compte des sondages? On sait tous qu'on s'occupe en sondage. Jamais, on n'y croit pas. Les sondages ont perdu toute crédibilité. Maintenant, dites-moi ce qu'il raconte. 6 points.
Donc tu vois, George, tout n'est pas si mauvais.
George, faire cette télévision te met déjà 40 minutes dans la vue. Le déjeuner, George, le déjeuner avec la délégation de députés.
Ça, je suis obligé d'y aller.
Le premier ministre bulgare, j'ai déjà appelé, ne peut pas modifier son emploi du temps. Il faut virer quelque chose.
George, normalement, il y avait le briefing avec l'INSEE pour parler de ton image.
Ça va, Biden?
Il faut qu'on parle. Le groupe parlementaire.
Ils sont inquiets?
Évidemment.
Ah, le parti inquiet, sans blague.
Non, plus la situation économique se dégrade, pire c'est. Le cabinet fantôme n'a pas l'impact qu'il devrait avoir et ils s'inquiètent que nous ne les écoutions pas.
Oui, oui, eh bien, ils ont raison.
Ça y est, c'est à lui.
Cet extrait s'achève sur l'apparition de Jones à la télévision, car l'absence de guerre, c'est du théâtre et du cinéma, très bien filmé, projeté sur grand écran. Aurélie Van Dendal nous explique pourquoi elle donne une si grande importance à l'image dans ce spectacle.
C'était l'idée de se dire, voilà, cette image avec laquelle on vit, qui régit aussi vraiment nos vies, comment nous on peut la traiter et quelque part aussi la maîtriser, c'est-à-dire indiquer au spectateur, à ce moment-là, ça peut être important, à ce moment-là, le corps est le plus important, en tout cas, permettre une navigation, soit pas didactique, d'essayer de proposer une alternance entre ces deux choses-là. L'image, c'est aussi le médiatique, c'est aussi ce bain-là dans lequel ils sont obligés de se mettre, dans lequel ils sont obligés de présenter, alors même que dans le rose, dans cette avant-scène, c'est beaucoup plus l'idée d'un endroit où ils sont sans peau, beaucoup plus nus, beaucoup plus animaux politiques. Il nous a semblé qu'il y avait une notion très forte de champ hors champ, avec ce champ qui est les locaux du Parti travailliste, des locaux réconfortants dans lesquels cette équipe se retrouve, elle peut discuter, et puis cette idée d'un espace médiatique bleu, conservateur, dans lequel ils sont amenés à aller, mais dans lequel ils n'ont absolument pas le pouvoir, dans lequel l'image l'a beaucoup plus en fait.
Donc on peut dire que les personnages politiques sont à la merci de leur image, Marjorie ?
Absolument, à coup de stratégies de communication, de sondages, de mensonges et de story telling, la forme finit par l'emporter sur le fond et George Jones étouffe littéralement dans cette mise en scène.
L'Irlande du Nord, c'est au-dessus de la politique, c'est ça qu'on dit? Mais qu'est-ce que c'est qu'une politique qui décrète que certaines choses sont trop importantes pour qu'on en parle? Alors qu'est-ce qu'il nous reste là? Tout le reste n'est qu'un jeu, on ne peut pas parler de l'histoire. On ne peut pas dire que l'Angleterre est enfermée dans un déclin historique, même ça on n'a pas le droit de le dire, mais c'est vrai. Il suffirait de le dire pour foutre le feu aux poudres.
George,
La défense. Abandonner les armes nucléaires, comme chacun sait qu'on devrait faire. Ça, mon Dieu, mais je pourrais faire un discours formidable là-dessus. Si seulement je pouvais.
Charles, est-ce que je pourrais te parler une fois?
Sans parler de l'économie. Je ne peux rien dire sur l'économie, hein. On s'en est déjà tous rendu compte. Si on dit la moindre vérité, c'est toute la baraque qui saute. Je ne peux rien dire. J'ai toute une liste de gens qui font la queue dehors.
Oh, écoute-moi, Georges.
Mais tu dois leur dire que tout va bien, hein.
Alors j'ai demandé à Sidney Ali Meheleb, qui joue George Jones, ce qui arrive à son personnage.
C'est vraiment tout d'un coup quelqu'un qui, par une force un peu inconnue, ramené au sol. Lui-même se dit, voilà, je n'y arrive plus, ce n'est plus mon monde, donc comment je fais?
Est-ce que c'est jubilatoire à jouer un personnage qui perd pied comme ça avec la réalité et puis qui est rattrapé par cette réalité?
Ouais, bah pour moi ça l'est, dans le sens où j'ai une chance extraordinaire que Aurélie m'ait fait confiance sur ce rôle-là, parce que c'est un magnifique rôle. C'est aussi la dimension de la pièce shakespearienne qu'on a essayé de trouver, parce que forcément il y a des ponts. George adore le théâtre, on le dit dans la pièce, et il a cette fantaisie-là en lui, mais qu'il a perdu à un moment donné, dans la manière avec laquelle il s'est construit politiquement, en étant leader, etc.
Aurélie Van Dendal parle elle aussi de la pièce comme d'un thriller shakespearien et elle nous explique pourquoi.
Alors en fait, David Ayer, il fait beaucoup de références à cet homme qui est féru de théâtre. On sent qu'il a envie un peu plus d'être au théâtre que d'être dans son parti. Dans le travail, on a essayé de se dire, ok, qu'est-ce que ça va être les références shakespeariennes, des scènes de conspiration, de réunions secrètes, qu'est-ce que c'est que David Ayer va reprendre comme motif. Donc pour moi, très fort, il y a la trahison, l'idée de tirer dans le dos, qui fait appel évidemment à Othello, mais aussi à beaucoup de tragédies shakespeariennes. C'est l'idée de se dire, voilà, comment il se nourrit des mythes et les insuffle dans son histoire-là, qui est à la base une histoire documentaire, puisqu'il a suivi la défaite du candidat travailliste Neil Kinnock en 92 lors des élections britanniques.
L'absence de guerre, un thriller politique mis en scène par Aurélie Vandendal, c'est au Théâtre de l'Aquarium jusqu'au 3 février. Merci Marjorie. Ce n'est pas dans l'hôtel de Bourgogne que se déroule ce seul en scène de Nicolas Devor, mais dans un collège, Cyrano de Bergerac. Et là, Margot, du moins dans le texte que doivent apprendre les élèves de cette classe.
Monsieur Devarceau, professeur de français, anime le cours de théâtre. C'est la rentrée et le défi de cette année, monter la pièce Cyrano de Bergerac.
Y en a qui connaissent un petit peu Cyrano, qui peuvent vous en dire deux mots? Oui, monsieur.
Adélaïde.
Bah, il a un gros nez, il est laid.
Voilà. C'est le début.
Mais il est amoureux également. Alors, il est amoureux de qui?
De Roxane.
Oui, Maxence, il est amoureux de Roxane. Et puis, il y a également Christian, hein, qui vient en quelque sorte compléter ce trio principal. Bon, on développera bien sûr tout ça plus en détail pendant le cours de théâtre.
D'abord, c'est ma pièce préférée. C'était le livre de chevet de mon papa. Et puis, parce que j'ai rencontré des élèves dans le cadre des tournées. Parfois, je suis amené à rencontrer des lycéens. C'était des premières qui ne connaissaient pas Cyrano. Alors, tout ça a fait que j'ai eu envie d'écrire un spectacle qui... C'est pas Cyrano, disons que Cyrano a une part importante dans le spectacle.
Et Cyrano a un écho un peu spécial dans le cœur du jeune Colin, c'est le personnage principal de cette histoire. Sa particularité, il est bègue. Dans l'extrait que nous allons entendre, Colin, en binôme avec Maxence, travaille la tirade du nez.
Donc toi, on viendrait te voir en me disant « Oh là là, Colin, vraiment, c'est ridicule comme tu bégayes. » Et bah tu dirais quoi?
Bah... Rien, hein. De toute façon, je bégaye alors. Plus je m'énerve et plus je bégaye alors.
Moi, tu vois, je crois que si on venait me voir en me disant oh là là, toi, vraiment, qu'est-ce que t'es maniéré, je dirais bah oui. Oui, effectivement, je porte sur moi une forme de classe et d'élégance. Ça, c'est sûr, on peut pas en dire autant de toi. Espèce de bouseux.
Ouais, mais tu l'as déjà dit ça?
Non, non, j'imagine que c'est ce que je dirais, mais... J'ai remarqué, souvent, la répartie, elle arrive un petit peu tard.
C'est que moi, je suis toujours le plus fort. Dans ma tête, 2 heures après.
Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation? Alors, la personne qui lève la main, ici, je ne la crois pas. Vous pouvez d'ailleurs l'abaisser, Jean-François. Oh. Et ce que me confiait Nicolas Devor, finalement, c'est que... Bah, on a tous un petit Colin en nous.
Alors, vous me le disiez tout à l'heure, Margot, ce seul en scène n'est pas seulement une ode à Cyrano de Bergerac, c'est aussi un hommage au professeur.
Tout à fait. Avant d'écrire son spectacle, Nicolas Devor s'est renseigné sur l'école et cette question, qu'avons-nous à transmettre? Alors, si ça passe par l'éducation à la maison, ça passe aussi par l'instruction et ça, c'est le rôle du professeur.
C'est pas de la flagornerie, hein, mais je trouve que les profs sont un peu dévalorisés, alors que pourtant, c'est ceux qui devraient être le plus mis en avant. Ils transmettent le savoir, quoi. C'est eux qui font que nos enfants seront ce qu'ils seront demain. J'aime beaucoup le film Le Cercle des Poètes Disparus, je m'en suis pas mal inspiré aussi. J'ai créé un prof un peu idéal, il faut être honnête. Il a toujours la bonne réflexion, toujours la bonne psychologie, il capte bien les choses. J'aime bien quand les gens me disent, mais parce que c'est pour moi aussi, j'aime bien les gens qui me disent en sortant du spectacle, oh, on aurait aimé avoir le prof qui est dans le spectacle. J'ai dit, mais moi aussi.
Et moi aussi, je vous le confirme.
Nicolas Devor interprète donc ce professeur, mais aussi 6 autres personnages.
Oui, 5 élèves et la psychologue scolaire. Alors aujourd'hui, quand je ferme les yeux et que je repense au spectacle, je visualise vraiment 7 personnages bien distincts. C'est donc une sacrée performance avec un rythme effréné.
Monsieur, c'est pas facile aussi avec lui. Là. Non, là, j'ai rien dit, là. Non, là, non. Mais avant, franchement, peut-être avant, mais là, franchement, j'ai rien dit. Non, mais là, sérieusement, mais gars. Mais monsieur, mais franchement, j'ai rien dit. Non, là non, mais avant. Non, mais je sais, Colin, ça va. Alors, Guy, c'est bon. Eh, franchement, monsieur, mais j'ai rien dit. Eh ben, tu continues.
Pour ce spectacle, je suis vraiment parti en me disant, je vais le faire seul. Moi, je voulais vraiment d'abord raconter une histoire de A à Z, et puis je voulais qu'il y ait une performance de comédien. Voilà, je voulais que les gens sortent en se disant, oh là là, il était tout seul, mais on a vu 7 personnages.
Est-ce qu'ils sont pas un peu caricaturaux tout de même ces personnages ?
Oh bah si, un petit peu, mais Nicolas Devore ne s'en cache pas.
Comme c'est des ados, on leur pardonne peut-être aussi un peu plus. Moi j'ai beaucoup travaillé avec les ados, il y en a, c'est des vraies caricatures, hein. il faut être honnête. Et je trouve ça hyper touchant, hein. C'est pas méchant ce que je dis, au contraire. Il y en a des ados, moi j'ai une fille qui est en préadolescence, bon il y a des fois elle a des attitudes, c'est emprunté, c'est théâtral, c'est incroyable.
Alors si les adolescents ont pu être une source d'inspiration, l'auteur s'est aussi appuyé sur un art inattendu.
En fait, je me suis inspiré d'une bande dessinée qui s'appelle L'Art Invisible. C'est un Américain qui fait ça, qui s'appelle Scott McCloud. Il travaille depuis des années. Il appelle le 9e art, la bande dessinée, l'art invisible. Et en fait, il l'explique par un exemple très simple que tout le monde va comprendre. Je vous montre une case avec un œil ouvert. La case d'après, l'œil est fermé. Vous avez tous compris que l'œil, c'est fermé. Je vous l'ai jamais montré. Je vous ai montré deux symboles, un œil ouvert et un œil fermé. Et entre les deux cases, c'est l'invisible et c'est votre cerveau qui fait le travail et qui comprend tout de suite que l'œil s'est fermé. Mais moi, c'est pareil. Quand j'arrive, on voit bien que je suis un homme de 40 ans et que quand je commence à jouer Adélaïde, Benoît, Maxence, Colin, on voit bien que c'est pas moi. Mais le cerveau, il fait le travail en 3 secondes. Et c'est pour ça que je pense qu'une des forces de ce spectacle, le fait qu'il n'y ait pas de décor, pas de costume, mais que ce soit le même comédien qui joue tous les rôles, ça laisse énormément de place à l'imagination du spectateur.
Entre rire, émotion et poésie, je suis rentrée sans problème dans la peau de Cyrano.
Voilà, c'est le titre de ce spectacle écrit et mis en scène par Nicolas Devore. Et c'est donc au Théâtre du Lucernaire à Paris, du mercredi au dimanche et en anglais le mardi jusqu'au 17 mars. Merci Marco. C'est l'un des couples mythiques de l'art, comme Auguste Rodin et Camille Claudel, ou Frida Kahlo et Diego Rivera. John Mitchell et Jean-Paul Riopel font donc l'objet, Muriel, d'une exposition à Landerneau en Bretagne, au fond Hélène et Édouard Leclerc.
Et oui, et c'est donc pendant ces années rock des années 60, donc on entend bien la musique, leur vie aussi a été très rock'n'roll. L'exposition se trouve effectivement sur l'emplacement du premier hypermarché Leclerc, installé dans un ancien couvent au cœur du Finistère, que Michel-Édouard Leclerc a créé une fondation au nom de ses parents. Et c'est la première fois que les œuvres de Mitchell et Riopel, ces grands artistes de l'abstraction, sont réunies dans une même exposition. Elle est américaine, lui canadien, alors ils se rendent compte où, évidemment ? À Paris,
forcément.
Et oui, oui, on est en 1955 à Saint-Germain-des-Prés, et alors ils tombent amoureux et vivent ensemble près de 25 ans, principalement en France, une liaison tumultueuse, bien sûr, ce sont des artistes, des créateurs, mais c'est des années créatives dont une 60aine d'œuvres ont été choisies et mises en parallèle dans l'exposition. Gisèle Barreau a vécu avec John Mitchell après sa séparation avec Riopel. Elle nous en parle.
Je pense qu'ils ont eu un amour tellement passionné. On le voit dans les visages quand ils se regardent dans d'anciennes photos. Ce sont des visages incandescents, il y a des regards intenses. Et ils étaient tous les deux passionnés par leur art, passionnés de peinture. Et donc, dans cette relation, j'ai pas envie de dire fusionnelle, mais vraiment amoureuse, c'est-à-dire où on a faim de l'autre. Et quand on a faim de l'autre, on a faim du savoir de l'autre, du désir de l'autre, de ce que l'autre aime, de ce que l'autre veut faire. Et je pense que l'un et l'autre, justement, participaient à ça. Voilà ce que je viens de peindre, voilà ce que je veux te faire. Et qu'est-ce que tu penses des blancs? Et qu'est-ce que tu penses de... Et moi, je fais ça. Et ils échangeaient énormément.
Gisèle Barreau, à votre micro, Muriel. Alors, de quelle manière est construit le parcours de cette exposition ?
En fait, d'une manière assez classique, puisqu'on suit un ordre chronologique. Le Musée des Beaux-Arts du Québec a en fait conçu cette exposition et c'est là où l'expo a été présentée tout d'abord, avant d'être présentée à Toronto ensuite, et puis de venir à Landerneau. À Landerneau, il y a deux espaces principaux liés au lieu où ils ont surtout vécu ensemble, un appartement parisien, puis à Vétheuil, dans une maison plus grande, pas loin de Giverny, attention, où Monet s'était aussi installé pour peindre. Ils vivent dans une grande maison, donc, où John Mitchell est resté jusqu'à la fin de sa vie. Ce qu'on apprend aussi, c'est qu'ils ne travaillaient jamais ensemble, mais toujours dans des ateliers séparés. Michel Martin, commissaire de l'exposition Mitchell-Riopel, un couple dans la démesure.
La démesure, c'est ce qui les caractérise. Démesure en tout. C'était des gens, deux artistes très forts, des personnalités très marquées, et des mesures dans la vie aussi, parce qu'il menait une vie assez, nous on dirait rock'n'roll. C'était des gens qui fêtaient. Et mais surtout, moi ce qui m'intéressait, parce que je ne voulais pas m'attarder à tout cet aspect-là, mais la démesure étant dans l'acte de peindre, dans la pratique même de la peinture, et surtout qu'ils ont tous les deux utilisé de très grands formats. Ça devenait une espèce de marque de commerce, parce que John Mitchell, à partir des années, début des années 60, va utiliser le diptyque et le polyptyque. Donc, c'est des œuvres qui font des 3-4 mètres de haut. Justement, les frais sont énormes pour faire voyager des formats comme ça.
Oui, une exposition coûteuse, hein, donc Muriel, vu la taille des tableaux. Mais alors, vous disiez que tous deux travaillaient dans des ateliers séparés. Est-ce que, justement, les œuvres du couple se parlent?
Mais c'était bien là la difficulté de cette exposition. Ce qui saute aux yeux, en tout cas, c'est combien chacun des artistes a une identité propre. Les tableaux de Riopel sont denses, avec beaucoup de matière. L'artiste étale la peinture à grands gestes et en rajoute. Chez Mitchell, c'est plus évanescent, je dirais, plus léger peut-être, plus poétique, avec des espaces vides. Et pourtant, pour Gisèle Barreau, ils se sont mutuellement influencés.
Tous les deux sont des coloristes extraordinaires. Simplement, si vous regardez la palette de Jean-Paul, elle est différente de celle de Joan. On trouve cette notion de vitrail que vous avez vue à l'entrée dans cette œuvre sublime de Jean-Paul. Et cette notion de vitrail, je l'ai retrouvée dans des œuvres de Joan, comme des grands diptyques. La réflexion sur les blancs, je l'ai trouvée chez Joan, qui me disait toujours, tu sais, le blanc fait marcher les couleurs. Et Jean-Paul Riopel a réfléchi sur les blancs. Et si vous regardez Piroche ou si vous regardez Iceberg, vous voyez qu'il y a une réflexion sur les blancs qui est étonnante. Donc il y a effectivement deux artistes très différents de personnalité, mais qui vont réunir leurs passions et qui vont échanger.
Michel Martin a ainsi placé en parallèle des œuvres des deux artistes.
Alors là, c'est deux manières. Dans le cas de Mitchell, on a une construction en plan coloré. J'ai parlé d'un totem tout à l'heure, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a trois ou quatre éléments qui sont superposés les uns aux autres et qu'elle va reprendre dans un désordre pour la partie du haut. Et de façon à terminer le haut de son tableau avec un grand disque orangé qui est la référence à l'objet du tournesol. Le tableau de Riopel qui est juste à côté, oui, il est aussi coloré, il utilise les mêmes gammes de couleurs, encore des orangés, des jaunes, des verts, des bleus, mais encore là, toujours travailler dans sa matière. Il va travailler sa peinture un peu comme un sculpteur. Hein, il utilise beaucoup le couteau.
Chacun a son style bien marqué qu'on retrouve donc dans les œuvres. Et puis leur liaison bat de l'aile. Riopel s'en va chez lui au Québec. Les grands espaces enneigés lui inspirent des toiles gigantesques, blanches, émouvantes. Mitchell s'imprègne de la nature, de Vétheuil dont Monet s'est tant inspiré. Elle peint le tilleul devant sa maison, florilège de vert, bleu sombre, de blanc et de lumière. Il la quitte et elle crée La vie en rose. Titre ironique, pied de nez au malheur. Mais au-delà des affres de l'amour, la peinture reste puissante, forte, on va dire un cran au-dessus chez John Mitchell, et on s'en aperçoit dans l'exposition.
Une exposition qui s'intitule donc Mitchell Riopel, un couple dans la démesure, à découvrir à la Fondation Hélène et Édouard Leclerc à Landerneau en Bretagne jusqu'au 22 avril. Merci Muriel. Beau dimanche sur RFI, le trompettiste Ibrahim Maalouf, c'était comme le titre de ce coffret, l'annonce Alain, le 14 décembre 2016 à Paris, ici évidemment en compagnie d'Amadou et Mariam, Ibrahim qui vous a reçu Alain dans son studio aux portes de Paris.
C'est mon petit laboratoire, on est en train de travailler avec une jeune chanteuse pour lui produire éventuellement son prochain album.
À suivre donc hein, Alain, alors Amadou et Mariam qui n'étaient pas les seuls invités à ce concert parisien, où se sont précipités pas moins de 17 000 personnes.
Il fallait aussi compter avec le trio L.I.J. que vous avait déjà reçu ici, Jean-François, ou Oxmo Puccino,
qui
confiait récemment ne pas savoir ce que le rap était aujourd'hui, voire qu'il serait fini, comme il l'écrit dans un texte, le sentiment d'Ibrahim Maalouf.
Les rappeurs, ils sont là aussi pour nous pousser un peu dans nos retranchements, pour nous provoquer un peu, pour qu'on réfléchisse. Hein. Ce sont des artistes qui réfléchissent un peu à la punchline, quoi. Il faut que ça tape dans l'oreille pour que ça bouge. Donc, je pense que quand il dit ça, il pense pas vraiment que le rap est mort. Il se dit simplement que la vision qu'on a du rap aujourd'hui n'a rien à voir avec celle qu'il a lui, et que celle qu'il a lui est beaucoup plus noble, qui défend cette vision-là du rap. Faut savoir lire entre les lignes, hein, surtout quand c'est Oxmo qui parle. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec Ox plusieurs fois, et quand il parle même, c'est comme quand il écrit, il faut savoir lire. Il y a plusieurs lectures de ce que Oxmo dit.
Même le A n'est rien sans muse. Dans l'eau, un sachet de lettres D, on s'y infuse. La main voyageuse trace un long message. Que tes cellules puissent lire le bon massage. Un à un, les muscles se relâchent. Ces minutes sont celles de la relaxe. La pluie prend le bruit d'un ruisseau piano.
Ibrahim Malouf et la participation d'Oxmo Puccino, Douce, un extrait de son album et DVD 14-12-16 Live in Paris. Ibrahim qui a commencé à faire des concerts à 9 ans avec son père, qui était musicien classique. Cela aurait même commencé à la garderie. Depuis ses débuts, il a multiplié les formules à 3, séparément, en version création directe, en improvisation, dans un théâtre antique à Vienne, dans un zénith, à la Cité de la Musique, au Palais Royal, dans l'ancien réfectoire d'une abbaye de Bourgueil, avec deux trompettistes et un percussionniste, une improvisation géante à la grande halle de la Villette, ou encore la salle Playel à Paris, sans oublier Casablanca. Quelle formule convient le mieux à Ibrahim Malouf?
C'est marrant, c'est la première fois qu'on me fait une sorte de petit résumé rapide, un peu toutes les formations. Je sais pas, j'aime vraiment jouer dans des contextes différents. Il n'y a pas forcément une formation au-dessus des autres. Après, le groupe avec lequel je tourne beaucoup en ce moment, par exemple. Donc, c'est une guitare électrique, une basse électrique, une batterie, deux claviers, trois trompettistes qui m'accompagnent. C'est une formation que j'ai trouvée, qui a vite semblé évidente, parce que j'étais en train de défendre tel type de musique. Mais si je vais défendre un autre type de musique, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc les lieux, c'est un peu la même chose. Les lieux dans lesquels on joue dépendent aussi de quel type de musique qu'on va jouer. Moi, je rêve, par exemple, quand j'étais plus jeune, on jouait beaucoup dans les églises, dans les cathédrales et tout ça. Donc je rêverais de refaire un concert dans une cathédrale, mais vous me voyez venir avec guitare électrique, batterie, basse, ça serait un peu compliqué au niveau son. Donc voilà, je pense que chaque lieu a une âme, chaque musique à une identité, ou plusieurs identités. J'essaie de trouver, de faire correspondre les lieux, et donc les âmes, avec les musiques, et donc les identités qui leur correspondent, et essayer de trouver les... Parfois, on peut faire des choses osées, en effet, jouer du rock dans une abbaye, c'est vrai que ça m'est arrivé, ça peut paraître un peu bizarre, mais ça fonctionne aussi, etc. Parfois, on essaie de faire des choix... Il y a des couleurs qui parfois jurent, mais qui sont intéressantes. Il y a des saveurs qui parfois nous font bizarre quand on les goûte la première fois, mais après on a du mal à s'en passer. Je fais un peu pareil, je trouve, avec la musique.
Gymnase, vous avez déjà joué dans un gymnase?
Je l'ai fait il y a longtemps.
Je dis ça parce que vous comparez un peu comme un sportif, parce que vous faites travailler quand même beaucoup de muscles. Quels sont les muscles qui travaillent le plus lorsque vous êtes sur scène, Ibrahim Malouf?
Le cœur. C'est un organe, mais c'est un muscle qui travaille et qui est extrêmement sollicité, surtout quand on joue de la trompette. On le fait battre à des rythmes extrêmement différents, et ce, pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Donc c'est un muscle qui travaille beaucoup.
Ah, ma belle étoile, quelques étoiles filantes. Toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figures.
La belle étoile, Ibrahim Malouf et M sur RFI. Dans moins de 10 jours, il sera de nouveau en concert à Boulogne-Billancourt, tout près de Paris, à la scène musicale. Demandez le programme.
18 et 19 janvier, nous allons jouer la Levantine Symphonie numéro 1, qui est donc mon précédent album, enfin mon dernier album studio. Et des précédents albums. On est presque 180 sur scène, une orchestre symphonique, une maîtrise, donc chorale d'enfants, qui est la maîtrise de Paris, mon groupe, et on va faire la fête à la manière levantine, mais moderne à la fois.
Ibrahim Malouf, Yala, extrait de ce double CD, DVD et clé USB, s'il vous plaît, sorti chez Universal. Merci beaucoup, Alain. Merci également à Muriel, Margot et Marjorie. Dans un instant, l'info sur RFI, lundi. Rendez-vous avec l'écrivain libanais Sharif Majdalani pour son roman Des vies possibles, paru aux éditions du Seuil. Et vous m'en direz des nouvelles.